France Inter, le 18-20.
Sur le coup, quand on a tous lu ce sondage IFOP pour la Fondation Jean Jaurès et Conspiracy Watch, on a un peu rigolé. 9% des Français qui pensent que la Terre est plate, ça fait un joli tweet. 16% qui pensent que l'homme n'a pas marché sur la Lune, ça donne juste envie de relire Tintin. Mais quand on en vient au 11 septembre, manipulé par la CIA, aux 48% de gens qui croient au grand remplacement, aux 32% qui pensent que le sida a été créé en laboratoire, là on n'a plus du tout envie de rire, c'est plus que de la crédulité. C'est plus grave, probablement. Les théories du complot sont bien là. Elles font recette. Les fake news, les fausses nouvelles circulent. Parfois lancées, y compris par des présidents des États-Unis ou autres. Essayez d'expliquer tout cela n'est pas si facile. On vous répondra que vous faites partie du système et du complot, vous aussi. Alors comment lutter pour nous, les journalistes, qui sommes souvent visés, pour nous, les parents, les profs, les éducateurs, qui avons un rôle énorme de pédagogie à jouer. Faut-il légiférer? Comme le suggère Emmanuel Macron, la discussion est ouverte. Bienvenue dans le téléphone sonne.
Fabienne Synthès. Le téléphone sonne.
Et Sébastien, c'est vous le premier qui lancez la discussion. Bonsoir, soyez le bienvenu.
Bonsoir, merci de me recevoir mon appel. Et merci pour votre émission.
Allez-y Sébastien, merci, on vous écoute.
Alors, je suis moi professeur de lettres, histoire, géographie en lycée professionnel en ZEP, dans l'ouest de la région parisienne. Et je suis, de manière quasi hebdomadaire, confronté par mes élèves à une théorie du complot, qu'elle soit du 11 septembre 2001 et du passeport d'un des terroristes, aux assassinats récents de l'affaire Charlie Hebdo et de ce meurtre en direct d'un policier diffusé sur BFM et autres chaînes. Et j'avoue que je suis confronté très régulièrement à ces choses-là. C'est assez difficile d'opposer une parole de raison à ces théories qui sont ancrées par Internet notamment. Et on en vient à essayer de leur expliquer malgré tout que la théorie du complot est de ce... C'est notamment ce que vous disiez dans l'introduction, toutes ces théories de la CIA, d'un gouvernement mondial qui contrôlerait tout, est une certaine manière, du point de vue des profs, je pense beaucoup, une façon pour les élèves, mais ça va de 14 à 21 ans dans mon cas, de se dédouaner. En réalité, c'est-à-dire que je n'ai pas à être actif dans la vie de ma cité, de ma nation ou de ma commune. Tout est décidé. Je suis une victime d'un système. Je ne suis pas responsable de ce qui m'arrive, sans dire qu'ils sont forcément responsables de la misère sociale ou autre. Hein. Mais il y a une façon de subir les choses et de se dire, c'est pas ma faute. Il y a un complot. De toute façon, tout est décidé à l'avance, une sorte de fatum. Je pourrais même faire référence à la mythologie. Et ça commence, je disais tout à l'heure au standard, le matin, quand les élèves sont en retard, le lycée ferme ses grilles à une certaine heure, mais ils ont fermé la grille devant moi. Je ne suis pas arrivé en retard, puisque la grille se ferme à heure fixe, mais c'est forcément, ils ont fait quelque chose contre moi. Donc une sorte de victimisation permanente qui dédouane de toute responsabilité individuelle.
Et Sébastien, par curiosité, avant qu'on puisse répondre à vos interrogations, est-ce que vous avez du mal à répondre, en fait? Est-ce que vous vous sentez à bout d'arguments, souvent?
Alors, parfois, oui. Habituellement, j'utilise cet argument d'expliquer que... c'est quand même une façon de se dédouaner de penser ces choses-là. On peut opposer des faits scientifiques, des sites internet comme Hoaxbuster ou autres, mais effectivement, chez certains étudiants, surtout les plus vieux, où c'est déjà peut-être un peu trop ancré, il y a une fermeture immédiate qui se fait. Et avec des références, parfois, puisque je suis dans une situation de recrutement d'élèves de zones défavorisées et... des fois des comportements de « ils nous en veulent », un « nous » étant indéfini, n'étant pas forcément d'une nationalité, d'une origine ou d'une religion. Donc au bout d'un moment, on est à bout d'arguments, oui, effectivement.
Merci beaucoup Sébastien pour votre témoignage, surtout qui lance très bien la discussion de ce soir, et pour vous répondre, pour débattre ensemble ce soir. Rudi Reichstadt est avec nous, bonsoir.
Bonsoir.
Fondateur de Conspiracy Watch, donc ce fameux sondage IFOP, vous le connaissez évidemment par cœur. Gérald Bronner est là également, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes sociologue, professeur à l'Université Paris Diderot, et vous avez notamment écrit « La démocratie des crédules », c'était chez PUF en 2013. Et puis Emmanuelle Davier est avec nous également. Bonsoir Emmanuelle.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste, coordinatrice du projet Interclasse, porté notamment par France Inter. Et vous aurez l'occasion de nous expliquer, peut-être tout assez vite d'ailleurs, grâce à la question de Sébastien, ce que ça veut dire réellement. Rudi Reichstadt, moi, ce qui me frappe dans ce que nous raconte Sébastien, c'est la difficulté de la parole de raison, en fait. C'est la difficulté à expliquer, le fait de se retrouver un moment à bout d'arguments.
Bah, si vous voulez, c'est ce à quoi on est confronté quand on est confronté à un fait de croyance, il me semble. Comment raisonner quelqu'un qui veut croire, voilà, qui veut fuir notamment la réalité, soit parce qu'il la trouve insupportable, soit parce que il trouve la fiction plus désirable, plus excitante. Et on sait l'effet, le plaisir cognitif, pour reprendre les termes de Gérald Bronner, qui est ici ce soir, que peut produire l'effet de dévoilement, qui est propre à toute théorie du complot, et puis aussi le côté narcissique qu'il peut y avoir à se dire « moi, j'ai compris le dessous des cartes, moi je suis un initié, j'ai compris comment ça se passait, on me la fait pas moi, voilà, je suis plus malin que les autres ». Voilà. Et puis ça va aussi avec la paresse, si vous voulez, de se dire « voilà, j'ai là une clé d'explication du monde qui ouvre toutes les portes et on n'en parle plus ».
Gérald Bronner, notre auditeur Sébastien, parlait d'une manière de se dédouaner en fait par rapport aux choses.
Et oui, on comprend bien le désarroi de Sébastien, qui est confronté peut-être comme un certain nombre de professeurs.
Il y en aura d'autres, beaucoup qui appellent au téléphone sonne ce soir.
Probablement, c'est pas vraiment un élément d'étonnement, et ils sont confrontés à finalement un exercice de leur profession qui est pas l'exercice habituel de leur profession. Ils ne sont pas formés pour ça, les enseignants. Et pourtant, normalement, enseigner, c'est être un maître et avoir des élèves, et donc il y a une forme d'asymétrie qui ferait que le maître doit pouvoir répondre à ces questions. Or, les élèves arrivent, quand ils croient à ces théories du complot, tout armés d'un certain nombre d'arguments auxquels le professeur n'est pas préparé à répondre. Pour vous donner un seul exemple, puisqu'il a évoqué la théorie du complot sur Charlie Hebdo, on a tous été subjugués par le fait que dès le 7 janvier, on a vu surgir des arguments en faveur de la théorie du complot. Mais j'ai pu les mesurer, il y en avait 25 le premier jour, le 7 janvier.
25 différents,
et 4 jours après, il y en avait plus de 100. Donc comment voulez-vous que nos collègues du secondaire puissent être armés pour répondre, sans consacrer 24 heures de leur temps, à cette armada argumentative? Et donc c'est vraiment très en amont qu'il faut répondre à ces questions. Il ne faut pas forcément attendre des professeurs, qu'ils, par un coup de baguette magique, qu'ils soient armés pour répondre à des arguments qui sont parfois loufoques, mais parfois assez convaincants, assez troublants d'un point de vue technique. Et il faut une personne compétente pour répondre techniquement. Et quand Rudi Reichstadt l'a bien dit, en plus, ce sont des récits qui donnent envie d'être crus dans un certain nombre de cas, parce que entre autres choses, un des services qu'ils rendent, c'est qu'en effet, ils savonnent la pente du biais d'autocomplaisance. Ce sont des récits qui vous expliquent souvent que votre propre échec n'est pas dû à vous, mais est dû à la méchanceté en fait du monde. Bon, il a donné quelques exemples tout à fait anecdotiques et en même temps très, très parlants.
Emmanuel Davy, on va venir un instant sur ce que vous faites, vous, et comment on fait pour ramener, en fait, tenter de ramener les plus jeunes, notamment vers la vérité. Je voudrais d'abord qu'on écoute Karine. Bonsoir, Karine.
Oui, bonsoir.
Vous avez un exemple précis, allez-y, on vous écoute.
Oui, bonsoir. J'enseigne dans un lycée parisien. En fait, je suis entièrement d'accord avec ce que vient de dire votre invité, parce que pour nous, les professeurs du secondaire, nous avons enseigné, par exemple, en septembre 2001, dans mon programme de première, dans le programme d'histoire, en tant que nouvelle conflictualité. Et depuis quelque temps, on est confronté, enfin depuis pas mal d'années, on est confronté à une montée, on va dire, de la théorie du complot, et notamment de l'importance qu'aurait pu jouer la CIA dans cet événement. Et en fait, comme évidemment tous nos élèves sont très connectés, ils ont accès à Internet, à tout un tas d'explications en effet qui leur semblent tout à fait rationnelles, nous les enseignants, nous avons un déficit d'historicisation sur ce 11 septembre et nous avons parfois du mal à contrecarrer les arguments qui sont donnés en cours alors que nous sommes en cours d'histoire. Et justement, ce qui est intéressant, c'est qu'à la fois, on a quelques outils, bien sûr, on a été parfois un peu formé dans des universités, si on a été volontaire pour pouvoir le faire, ou dans des universités d'été, mais c'est vrai qu'on est quand même assez démunis, si ce n'est qu'il faut évidemment que nous allions chercher des informations. Et par exemple, le lancement du site en 2004 qui s'intitule 9/11truth.org nous a quand même aidé, on va dire, à se retrouver un certain nombre de contre-arguments. Et ce que je voulais apporter aussi comme précision supplémentaire, c'est que, à contrario, quand on parle par exemple du rôle de la CIA dans des complots qui sont avérés, notamment des complots d'assassinats politiques qui ont été dévoilés par exemple par le rapport Church dans les années 70, alors là les élèves doutent. C'est-à-dire qu'on l'a, ils ont l'impression qu'en fait on leur raconte un peu n'importe quoi et que comment la CIA impliquée dans des assassinats politiques ou des tentatives d'assassinats politiques, comme par exemple celui les tentatives contre Castro ou comme sur Patrice Lumumba. Mm-hmm. Bah là, par exemple, il y a un doute qui s'installe, alors qu'il y a finalement, pour certains, pas tellement de doute sur le fait que le 11 septembre aurait pu être commandité par la CIA.
Est-ce qu'il vous arrive, Karine, j'ai une curiosité, d'aller voir vous-même, en fait, sur ces sites complotistes, justement pour devancer un certain nombre de questions et d'argumentations que vous pourriez entendre
tout
en classe?
Fait. Tout à fait. J'utilise par exemple très souvent cet extrait d'émission qui est l'extrait d'émission de Tout le monde en parle de Thierry Ardisson, qui avait invité sur le plateau Messant, mm-hmm. qui a fait un ouvrage justement qui allait dans le sens mm-hmm. des théories du complot sur le 11 septembre. Et je leur montre finalement comment le plateau qui au début est des autres invités qui étaient quand même relativement peu convaincus par la chose se mettent à douter par rapport à ce que dit Messant. Et je leur montre, vous voyez, comment est-ce que finalement on peut retourner une opinion en très peu de temps, surtout quand on a une très large audition. Et c'est vrai que je leur donne tout un tas de sites, de lectures potentielles pour contrecarrer les arguments qu'on peut trouver facilement sur Internet.
Merci beaucoup pour ce témoignage, Karine. Emmanuel Davier, c'est vers vous que je veux me tourner, parce que depuis les attentats de Charlie, justement, ce que vous faites, vous, avec Interclass, ce qu'on fait sur Inter, c'est d'aller non seulement vers les élèves, mais aussi de les ramener vers nous, en fait, leur montrer comment ça marche, nous, comment on la reçoit, l'information, comment elle nous arrive, et ce qu'on en fait ensuite. Et c'est important aussi que ça marche dans ces deux sens-là.
Absolument. Alors, on fait un travail au long cours, c'est-à-dire qu'on ne les rencontre pas deux heures. Mmh. C'est un travail qui s'étend de septembre à juin, qui nécessite un volume horaire pour chaque participant de 40 à 50 heures. Donc c'est tout à fait conséquent et ça permet en effet de bien comprendre les coulisses de notre métier. Et je retrouve dans ces témoignages ce que nous constatons également en classe, à savoir des élèves qui sont très perméable et très séduit par les théories conspirationnistes, parce que ça les rassure, parce qu'ils y trouvent un bouc émissaire, parce qu'ils ont l'impression d'être dans la maîtrise de ces enjeux économiques ou politiques qui les dépassent totalement. Et là, moi, vraiment, c'est ce que je constate et ce que je veux affirmer, c'est qu'en aucune manière, on ne peut leur en faire le reproche. Pourquoi ? Parce que personne ne leur a appris à décrypter l'information. Comment voulez-vous que des gamins qui sont dans un bain numérique, plusieurs heures par jour, qui naviguent sur les réseaux sociaux, qui trouvent un tweet de X ou Y, et ce tweet vaut une information du Monde ou du Parisien ou de Libé ou de France Inter ou de France Info, peu importe. Une parole n'est jamais au-dessus d'une autre. Tout se vaut dans leur esprit et tout est confondu. Ce qui fait que ces enfants, remettent en cause les faits, effectivement adoptent des croyances et proposent une toute autre lecture du monde, parce que personne ne leur a enseigné comment on décrypte l'information. Et précisément avec Interclass, c'est ce qu'on fait, et très important, on le fait non pas en étant dans l'injonction, en leur disant voilà ce qu'il faut penser, pas du tout, à aucun moment, au contraire on développe l'esprit critique
et
de l'enfant.
Et surtout pas, tu es idiot de penser à ça, c'est exactement
jamais, mais jamais, au contraire, même quand ils développent une théorie du complot, on leur demande d'aller dans l'explication et l'argumentation. Mmh. Et comme l'argumentation repose sur du sable, autant vous dire que ça s'écroule très très vite. Et l'important, et j'en termine là,
allez-y.
L'important, c'est qu'ils aient, comme nous, comme des journalistes, les mains dans le cambouis, c'est-à-dire aller faire du reportage sur le terrain pour voir comment on fabrique de l'information.
Gérald Bonheur, il y a un certain nombre de théories, la Terre est plate, on n'a pas marché sur la Lune, qui datent de très longtemps. Et pour on a marché sur la Lune, ça fait quand même un certain temps aussi, à une époque, c'est là où je veux en venir, où il n'y avait pas Internet. Donc ça fonctionnait quand même.
Bien sûr.
J'imagine évidemment que les choses ont énormément changé depuis le numérique. Est-ce que le passage, il est là? Ou est-ce que c'est quelque chose de concomitant? Est-ce que le 11 septembre particulièrement a été peut-être un moment de virage pour tout ce qui est fausse information et théorie complotiste?
Les deux sont possibles ensemble. Je crois effectivement, puis je l'ai écrit dans la démocratie des crédules, que la dérégulation du marché de l'information que constitue Internet est quand même un moment historique majeur. C'est la première fois où d'abord on a une telle massification, disponibilité de l'information, et où nous pouvons agir sur ce marché pour donner notre point de vue par un blog, par notre réseau social, etc. etc. Donc ça a contribué, non pas à inventer les théories du complot qui existent bien avant, mais ça a contribué à les faire sortir de l'espace de radicalité dans lequel elles étaient confinées depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, on va dire. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a certains événements historiques majeurs, comme la Deuxième Guerre mondiale, la montée du nazisme, qui était quand même adossée à des théories du complot. Donc on ne peut pas dire que ces théories n'ont pas eu un impact impact déjà bien avant Internet sur notre vie commune. Mais il est vrai qu'Internet, disons, permet, offre par sa technologie, disons, des ressources nouvelles pour la viralité de cette crédulité.
Et puis surtout, chacun peut aller chercher ces informations là où elle pense qu'elles seront vraies. Donc
absolument,
on ne va chercher que ce en quoi on croit.
Voilà,
donc
c'est ce qu'on appelle le biais de confirmation. Ouais. Et le biais de confirmation, il est évidemment amplifié. C'est un grand biais de l'esprit humain, peut-être le plus banal qui soit, mais il est aussi amplifié par les algorithmes. Dans les réseaux sociaux, etc., généralement, vous êtes enfermé dans cet océan d'informations, dans une position d'insularité, en quelque sorte. Et puis la rapidité de l'information. Puisque vous avez parlé du 11 septembre, et effectivement, c'est le premier grand mythe du complot qui est né sur Internet, mais il a fallu pas mal de jours, je crois 26 jours, pour qu'après les événements apparaisse la première théorie du complot. Alors que pour Charlie Hebdo, vous avez vu que le nombre, c'est 0 jour, c'est-à-dire une heure ou deux heures après, il y avait déjà des arguments en faveur de la théorie du complot.
Je pense à ça aussi, Rudi Reichstadt, parce qu'on se souvient, après le 11 septembre, du jeu qu'a joué George Bush, notamment de ce qu'on a essayé de nous faire croire sur la responsabilité de l'Irak, etc. Tout ça, forcément, est venant du président des États-Unis, c'est encore plus le cas aujourd'hui, mais alimente, j'imagine, toutes ces théories-là, et surtout concernant le 11 septembre.
Oui, et alors surtout concernant le 11 septembre, en même temps, c'est l'affaire des armes de destruction massive en Irak, et donc de la non-présence, de l'absence d'armes de destruction massive en Irak, elle peut jouer contre la théorie du complot sur le 11 septembre au final, si on y réfléchit bien. Ça peut être un argument pour, en disant ils ont menti là, donc pourquoi n'auraient-ils pas menti avant ? Mais on peut retourner complètement les choses et dire, mais s'ils ont réussi un complot aussi vaste que celui du 11 septembre, comment ils ont pu se planter comme ça pour les armes de destruction massive en Irak ? Et puis surtout, s'il s'agissait d'attaquer l'Irak, pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait porter le chapeau à des pirates de l'air irakiens, par exemple ? Bon, donc, voyez, c'est, tout dépend comment on voit les choses. Moi, je suis très prudent avec la thèse selon laquelle il y aurait du complotisme parce qu'il y a du vrai complot. Vous voyez, si vous voulez, ça me fait penser un peu. C'est comme si on disait oui, mais il y a des inondations parce qu'il y a de l'eau. Non, il y a des inondations parce que on n'a pas fait les digues qu'il fallait. Vous voyez, et je pense que le complot, ça fait partie de l'histoire humaine au long cours, mais que les théories du complot, c'est tout à fait autre chose. Ce sont des faits de croyance. Il faut bien les distinguer.
Et justement, tiens, avant de reprendre une question, Gérald Bronner, c'est pour vous, ça, très rapidement. Sait-on de quand datent les premières théories croyances ou croyances et autres complots? Dans le temps, ça? Au carbone 14?
Ça date au carbone 14, oui. Je dirais que c'est très ancien. Je ne suis pas un historien, je suis un sociologue, mais rappelez-vous, par exemple, le traitement du procès des Templiers était fondé sur une théorie du complot. Donc ça prouve, il doit y en avoir bien avant d'ailleurs, mais c'est la plus ancienne que je connais.
Même avant, dès le 12e siècle, on a les accusations d'empoisonnement des puits par les Juifs. On prêtait aux lépreux de fomenter un complot, un plan de domination mondiale. Ça peut paraître particulièrement curieux, mais oui, c'est très vieux.
Et la Révolution française, ensuite, a donné lieu aussi à toutes sortes d'interprétations complotistes.
Je voudrais qu'on parle de profil et Pascal va nous y aider. Bonsoir Pascal.
Oui, bonsoir, merci pour votre émission. Je suis désolé, ça va être encore un témoignage de prof.
Non, je vous en prie.
voilà, alors je suis très d'accord avec tout ce
qui... On peut pas s'excuser d'être prof sur France Inter.
Voilà, donc moi, allez-y. Je suis enseignant documentaliste et je voulais dire que il y a malheureusement pas que nos élèves contre lesquels je m'affronte souvent, notamment au sujet de la CIA, etc. Ils connaissent plus d'ailleurs bizarrement la CIA que la NSA. Et parce que Edward Snowden, ils connaissent pas. Mais depuis quelques années, je suis offusqué de voir que parmi mes collègues, sur les différents établissements que j'ai pu côtoyer, viennent me voir de temps en temps, en tête à tête, et puis ils me parlent du groupe de Bilderberg, des théories fumeuses du 11 septembre, etc. Et je dois dire que même au lendemain de Charlie Hebdo, ça m'a fait un peu froid dans le dos lorsque un collègue m'a annoncé qu'il avait des doutes suite à ce que certains élèves lui avaient montré sur leur smartphone, alors l'histoire des rétroviseurs de la fameuse Citroën C3, etc. Et je me dis que, j'espère que c'est pas trop répandu, mais le verre est dans le fruit, parce que si de notre côté, certains collègues, notamment les enseignants de lettres, les profs documentalistes, on lutte tant bien que mal contre toutes ces thèses, et que si certains collègues sont pas très au clair là-dessus, ça pose des questions.
Merci beaucoup Pascal, je voudrais enchaîner avec cette question d'Elisabeth sur franceinter.fr. Un collègue m'a harcelé pour me dire que la Terre était bien plate, il me racontait ça tous les jours, il me disait toujours mais on te mène par le bout du nez en me montrant même des vidéos sur YouTube. Rudi Reichstadt, y a un profil ou pas? Parce que dans votre sondage, effectivement, ce qui est très frappant, c'est que beaucoup de jeunes croient un certain nombre de ces théories-là, très bien, mais pas seulement en fait.
Non, pas seulement, et Et sur certains items, donc certaines théories du complot proposées, on a même le phénomène inverse. C'est-à-dire que sur JFK, c'est plutôt l'idée que le président Kennedy a été assassiné par la CIA. C'est plutôt les seniors qui sont concernés. C'est-à-dire qu'en gros, plus on vieillit et plus on a de chances d'adhérer à cette thèse. C'est vrai aussi sur l'idée qu'il y aurait un projet des élites de grand remplacement des populations européennes par des immigrés, et aussi sur le réchauffement climatique. Mais c'est sans doute lié aussi à des phases, à des différences dans l'époque à laquelle ces populations ont été socialisées politiquement. Effectivement, pour les plus de 65 ans, l'écologie, l'environnement est peut-être une question moins sensible que quand on a 18 ans.
Emmanuel Davier, est-ce que vous êtes confronté à quelques profs sceptiques parfois? Non.
Si. Alors, des professeurs, non.
Des parents, peut-être?
Des parents non plus. En revanche, il m'est arrivé de rencontrer des étudiants qui se destinent à devenir enseignants et qui adhéraient totalement à des théories du complot, et notamment des étudiants en histoire. Mais pour moi, vous voyez, c'est ce que j'appelle des communautés de pensée, et ça me fait vraiment songer à un propos de Barack Obama. C'était lors de son dernier discours en tant que président des États-Unis, et il disait « Nous sommes prêts à croire n'importe quelle information, qu'elle soit vraie ou fausse, pourvu qu'elle conforte nos opinions, au lieu de baser nos opinions sur des faits. » Et vraiment, en classe, c'est ce que l'on fait avec les élèves. On leur demande, lorsqu'ils nous donnent une information, de la baser sur des faits. Et ce qui est très précieux pour nous, c'est de constater qu'au fil des séances, ce travail-là porte ses fruits et qu'ensuite, ils sont beaucoup moins dupes et beaucoup moins manipulables.
Bonsoir, Christophe.
Bonsoir.
Soyez le bienvenu, Christophe. On vous écoute. Allez-y.
Écoutez, moi, en fait, j'appelais parce que, au départ, en fait, la façon dont était posée la question dans votre émission, enfin, le thème de l'émission me dérangeait un petit peu parce que j'avais l'impression que soit on adhérait aux informations qu'on nous propose, ou soit on était de suite classé dans la case des complotistes. Et moi, personnellement, je me considère pas du tout comme un complotiste. Je me considère comme quelqu'un de plutôt instruit, qui essaie de recouper les informations qu'on me donne, de prendre du recul par rapport à l'information avant de porter un jugement. Et c'est vrai que aujourd'hui j'ai l'impression que dès lors qu'on doute, on est rapidement, facilement en tout cas, sous la forme de l'humour, peut-être parfois, mais rapidement classé dans la théorie du complot. Voilà. Et moi, ce qui me fait un petit peu peur aujourd'hui, c'est dans une société où les gens ne doutent plus, quoi. C'est-à-dire que je pense qu'il est important de douter sans forcément être versé dans la théorie du complot, mais simplement forcé de constater que, avec notre position de citoyen lambda, on n'est pas en mesure d'aller vérifier l'information. Donc moi, je remets pas en doute la véracité des faits que nous énoncent les journalistes, mais simplement, je garde toujours à l'esprit cette petite part de doute, ou en tout cas, j'essaie de prendre un maximum de recul avant d'avoir des certitudes.
Merci. Pardon, Christophe. Merci beaucoup pour cette remarque, parce que il y en a d'autres qui posent des questions du même genre sur le hashtag Telson, beaucoup ici. Alors plus ou moins dans le sens de Christophe, parfois même un peu plus loin. Votre émission, pardon, est une façon de ridiculiser ceux qui se posent des questions sur des faits qui peuvent parfois être opaques, comme par exemple lors des attentats, nous dit un internaute. Un autre nous dit, voici une propagande médiatique en marche pour discréditer ceux qui s'interrogent. Christophe nous parle de doute. Rudi Reichstag, est-ce que le fait de trop parler de ces complots et de ces fake news interdit le doute ?
Mais non, mais si vous voulez, encore une fois, le doute, ça repose sur la méthode, il y a des manières de douter. Quand le doute devient un dogme en soi, quand on doute pour douter, on est dans une forme d'idéologie, et là on confine à ce qu'un auteur comme Pierre-André Taguieff appelle le dubitationnisme, et qui n'est qu'une forme faible de conspirationnisme en réalité. J'aurais juste vous soumettre quand même une formule d'un auteur sur le sujet qui est excellente, qui s'appelle Loïc Nicolas, et qui dit le conspirationniste, c'est celui qui doute de tout pour ne plus douter du tout. Et je crois que c'est tout à fait juste, c'est-à-dire que à travers la posture du doute critique, comme ça, il y a quand même la recherche d'une certitude. Et il ne faut pas être dupe, à notre tour, si vous voulez, de ceux qui disent « Ah, mais nous, on ne fait que poser des questions, on ne sait pas, on ne sait rien ». Bon, il y a des moyens de savoir aujourd'hui, justement avec Internet, sur les théories du complot, sur le 11 septembre, par exemple, eh ben, il y a tout un tas de sites Internet qui démontent les différents arguments complotistes. Donc, si on veut savoir, on peut savoir aujourd'hui. Voilà.
Quelques exemples, tiens, sur franceinter.fr, en dissimulant certaines informations sensibles finalement révélées par des investigations de journalistes indépendants, le monde politique et les lobbies justifient le doute et suscitent la théorie du complot. Je ne sais pas où sont les lobbies et de quoi on parle, mais c'est intéressant que ce terme ait été utilisé malgré tout par cet internaute Gérald Bronner.
Oui, non, mais sous sa formulation, moi, je peux être que d'accord avec ce que nous a dit Christophe, qui me semblait tout à fait raisonnable. Je pense pas qu'on soit menacé de rentrer dans une société où le doute ne serait plus permis. C'est plutôt l'inverse, hein. Je veux dire, le doute est omniprésent, la méfiance, voire la défiance dans un certain nombre de cas. Et il faut bien rappeler aussi que cela n'a pas grand-chose à voir, quand on parle de crédulité, avec une imbécilité supposée ou un manque d'instruction. Malheureusement, si c'était la seule solution, si le doute disparaissait, le doute, je dirais, de type paranoïde, ou les croyances, etc., disparaissaient avec le niveau d'études, on aurait trouvé la solution. Mais c'est notamment pour certaines croyances, en particulier par exemple pour l'astrologie, parce qu'il y a eu les enquêtes de Bois qui avaient montré ça et de Michelat, eh bien au contraire c'est corrélé à un certain niveau d'études. Donc c'est un peu étonnant. Il faut se rappeler par exemple que François Mitterrand, qui n'était pas tout à fait un idiot, consultait régulièrement une astrologue. Donc il faut bien décorréler la notion de crédulité. C'est pas une infamie. Je suis moi-même crédule dans un certain nombre de cas. Mais là où il faut fermement rappeler les choses, c'est qu'en effet on a le droit au doute, mais tout droit s'accompagne de devoir. Voilà. Et un devoir, interroger, personne ne demande, et moi-même je ne le fais pas, de croire béatement tout ce qu'on me dit à la radio ou à la télévision, ou parce que c'est écrit dans un journal. Bien entendu qu'il faut toujours avoir son esprit critique et suspendre son jugement dans un certain nombre de cas, tout simplement parce que les journalistes aussi peuvent faire des erreurs. Et c'est vrai qu'il y a des intérêts privés, il y a des lobbies, etc. Le monde est relativement complexe, il faut le reconnaître. Mais apporter à cette complexité une réponse simpliste monocausale, c'est pas vraiment ce qui va nous faire avancer vers un doute méthodique.
Bonsoir Bruno.
Oui, bonsoir.
On vous écoute. Écoutez, Bruno.
Merci de prendre ma question. C'est dans la prolongation effectivement de ce qui avait été dit. Vous avez parlé de doute. Donc face au doute, il y a ou le savoir ou la croyance, puisque quand on ne sait pas, on croit. Et quand on croit ou cherche à savoir, on doit faire confiance à quelqu'un. Quelqu'un qui pourra nous dire ce qui est juste, ce qui est vrai. Et la question que je me pose, c'est que est-ce qu'aujourd'hui ces recrudescences de complots, de fake news ou de quelle que soit la manière dont on l'appelle, n'est pas liée à une perte de confiance, perte de confiance des médias, perte de confiance des politiques, de certains scientifiques qui ont parfois des conflits d'intérêts un peu douteux. Et voilà, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on n'a plus confiance, on peut croire et être ouvert à n'importe quoi et ne plus avoir de vue sincère, objective. Et on ne peut pas tout savoir et ni tout vérifier individuellement.
Et on ne peut pas tout savoir, ça c'est vrai. Rudi Reichstadt, il a raison, Bruno, sur la perte de confiance, et y compris en nous, les journalistes, les médias.
Oui, et puis sur l'humilité, si vous voulez, c'est-à-dire qu'effectivement, la plupart des choses qu'on sait, dans la vie, on le sait par délégation, on délègue à des gens plus compétents que nous notre opinion presque. Moi, j'ai a priori, je ne sais pas si le climat, s'il y a un réchauffement climatique ou pas, mais je délègue pour cela, étant complètement incompétent sur le sujet, mon opinion aux spécialistes, et je sais qu'ils sont ultra majoritaires à considérer qu'il se passe quelque chose. Voilà. Donc.
Vous vouliez ajouter quelque chose, Emmanuel Davier, tout à l'heure, pardon.
C'est comme si on entrait dans l'ère du soupçon, pour reprendre et détourner un titre de Nathalie Sarraute. Et moi, je pense qu'il faut quand même se souvenir que lorsqu'on délègue justement ce que signifiait Rudi à l'instant, on donne un pouvoir aux journalistes. Et il ne faut pas oublier que ces journalistes, normalement, ils ont une éthique. Enfin, l'éthique, c'est ce qui nous anime au sein de la rédaction de France Inter et de toutes les rédactions. Mmh. Et vraiment, je voudrais le rappeler avec force parce que c'est important de ne pas imaginer que nous sommes manipulés par des forces obscures ou bien, et ça c'est ce que nous disent parfois les élèves de façon tout à fait décomplexée en classe, que nous sommes à la solde du gouvernement qui nous paye pour relayer certaines informations.
Tiens, Gérald Bronner, pardon de vous piéger, de vous emmener sur un terrain sur lequel vous aurez une minute. Il existe un prof, nous dit Frédéric Arène, qui m'a dit que Moïse avait vécu 1000 ans. En poussant le raisonnement jusqu'au bout, les différentes religions, c'est pour ça que j'ai posé cette question avant, ne serait-elle pas une énorme fake news? Je vous le dis parce qu'il y a énormément de questions qui viennent sur les religions. Comment on fait quand effectivement on a ce genre de questions qui arrivent? C'est bien joli de parler de fake news et de fausses nouvelles, mais regardez, on est cerné par ça depuis combien de milliers, depuis combien de millénaires?
Bah, je pense que sur ce sujet...
Vous avez une minute.
Très vite. Il faut bien distinguer deux choses. D'une part, la question de l'existence de Dieu, qui n'est pas une question scientifique. Donc moi, je n'ai pas de compétences sur ce point, parce que c'est un point qui est non démontrable. Et puis, la prétention qu'ont certaines religions à expliquer littéralement un certain nombre de choses. Par exemple, j'ai pu travailler sur les miracles à Lourdes. Donc, excusez-moi s'il y a des auditeurs croyants, mais on peut démontrer qu'il n'y a pas statistiquement plus de miracles à Lourdes. Il y a des miracles, c'est-à-dire des guérisons inexplicables dans l'état actuel de la science, mais il y en a aussi dans les hôpitaux. Eh bien, on peut statistiquement montrer qu'il y en a autant, et donc on peut dire que si Dieu pointe son doigt dans un endroit, il le pointe pas plus souvent à Lourdes que dans un hôpital. Ce qui ne défait pas la croyance en l'existence de Dieu, mais c'est qui amoindrit la prétention à faire un pèlerinage à Lourdes, par exemple.
Rémi, bonsoir.
Oui, bonsoir. Merci de prendre ma question.
Je voulais
remercier toutes les équipes techniques. Oui, en fait, j'avais l'impression que la question centrale à propos de toutes les thèses complotistes, en fait, la place de la preuve, puisque les arguments des complotistes tournent en général autour de deux sophismes que je vais présenter. Premièrement, les allégations irréfutables, comme par exemple Fabienne Saint-Pès est une reptilienne. Mmh. Prouvez-moi que c'est pas vrai, ce qui en général est impossible.
Mais je vais le faire.
Le renversement de la charge de la preuve.
Voilà, c'est ça, ouais. Ou alors, d'une autre part, le fait que les tenants des thèses complotistes refusent de prendre en compte les arguments prouvés qu'on peut le reposer. Une théorie scientifique peut être démontrée comme fausse. On peut proposer une théorie alternative qui pourrait être démontrée juste, et donc la science en général va s'adapter, enfin la connaissance va s'adapter à la démonstration. Alors que pour les complotistes, en général, plus on importe d'arguments, plus les complotistes seront confortés dans leur croyance. Et du coup, je voulais savoir un peu comment est-ce qu'on peut casser ces mécanismes et ces sophismes. Est-ce que juste les présenter, ça permet de pouvoir faire prendre conscience aux gens de ces défauts de raisonnement? Et j'ai aussi entendu dire que effectivement, il y a beaucoup de choses de très mauvaise qualité qui circulent sur Internet. Il y a aussi des choses très bien, comme des chaînes comme La Tronche en Biais ou Gène Mentale, qui permettent justement de présenter les biais cognitifs et qui, pour quelqu'un qui peut être un petit peu, on va dire, neutre, qui ne pose pas vraiment de questions, permet de se protéger un peu contre des mécanismes qui les feraient basculer vers les complots.
Merci beaucoup, Rémi. Rudi Reichstadt pour répondre à Rémi.
Non, bah écoutez, je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être exposé. Moi, je pense qu'il faut effectivement promouvoir l'esprit critique et que on est d'autant mieux armé à résister aux théories du complot qu'on connaît la manière dont elles fonctionnent. Je suis pas sûr, je suis même assez opposé à l'idée que ça doive faire l'objet d'un enseignement séparé dans un cadre scolaire, hein, pas du tout. Mais en revanche, je crois que plus on sait comment ça fonctionne et mieux on saura s'en prémunir. Oui.
Emmanuel Davier, c'est ça la clé, hein, aussi, c'est expliquer comment ça marche, peut-être aussi expliquer à ceux qui ont en face d'eux des gens qui pourraient véhiculer ce genre de choses. Vous, en l'occurrence, vous êtes dans les classes, mais expliquer aussi aux profs quels sont les mécanismes pour qu'ils puissent ensuite expliquer comment ça fonctionne, comment marche une source, comment marche une preuve, d'où vient l'information, etc.
Alors, c'est vrai, moi je pense que l'éducation aux médias, elle doit être quand même étayée par l'expertise des professionnels. C'est-à-dire, et même d'ailleurs les enseignants nous le disent, c'est plus simple pour eux de faire ce type de séance adossée à un savoir journalistique que lâcher seul face à une classe quand on n'a pas une sensibilité par rapport à l'éducation aux médias, qui est pour moi quand même la clé de voûte d'un édifice tout à fait important qui participe de l'édifice démocratique. Et je pense qu'actuellement, et en tout cas depuis 2012, les attentats à Toulouse, et 2015, les attentats de Charlie Hebdo, l'hypercacher et le meurtre des policiers, je pense que l'éducation aux médias est devenue un acte politique et pédagogique absolument majeur. Et c'est vrai qu'il est, il est urgent que chaque rédaction s'engage pour se mobiliser, aller dans les classes, expliquer à ces jeunes de ne pas se laisser mentalement enquister par des mensonges et une manipulation.
Vous parliez de politique à l'instant, Emmanuel Davier. Je voudrais qu'on écoute Xavier. Bonsoir, Xavier.
Oui, bonsoir.
Bienvenue, on vous écoute.
Voilà, moi c'est par rapport à la mise en place d'une loi sur les fake news. Quelles seraient les limites de cette loi? Par exemple, est-ce qu'au bout d'un moment, on ne pourrait pas dire que les gens qui prétendent que le glyphosate est dangereux pour la santé ou que Notre-Dame-des-Landes est dangereux pour l'environnement n'est pas une fake news? Et donc, les gens seraient condamnés pour fake news.
Merci pour votre question, Xavier. Alors, c'est peut-être pas comme ça exactement que cette loi est imaginée, pour l'instant seulement imaginée par le gouvernement, qui parle d'essayer de légiférer sur les fake news, et notamment en période politique. Légiférer, Rudi Reichstadt, est-ce que ça vous paraît être une solution, une bonne solution ou pas?
Alors, ça me paraît pas du tout être une solution optimale, dans la mesure où ce serait sans doute la manière la plus paresseuse de croire que, qu'on lutte efficacement contre le phénomène. En revanche, je suis pas a priori contre... absolument contre le recours à la loi. Voilà, pourquoi pas. La loi peut servir. C'est compliqué de s'exprimer sur ce projet de loi-là qui a été annoncé parce qu'on n'en connaît pas les détails. Donc il faut voir ce que...
Ça deviendrait compliqué de savoir qui détient la vérité de ce qui est juste et de ce qu'il ne l'est pas. Est-ce
savez,
qu'une loi
que
ne
font...
risque pas de se retourner finalement contre nous tous, puisque c'est nous qui allons décréter. Quelqu'un va décréter, un juge va décréter ce qui est vrai, ce qui est faux, qui sera immédiatement taxé de complotiste celui
aussi.
En droit
de la presse, c'est ce qu'on fait régulièrement. Mais la 17e chambre,
mais donc ça veut dire que l'arsenal
fait ça tous les jours.
Mais ça veut dire que l'arsenal, il existe. Est-ce qu'il est suffisant?
Alors ça, c'est ce qu'on doit essayer d'examiner cette année. Il y a une disposition dans la loi de 1881 sur la liberté de la presse, condamnant pénalement les
diffusion
fausses
de fausses nouvelles.
Diffusion de fausses nouvelles. Sauf qu'elle n'est pas du tout utilisée. Actuellement, en tout cas. Et je crois que la dernière fois qu'on y a eu beaucoup recours, c'était pendant la guerre d'Algérie. Vous voyez, parce qu'en fait, on songe essentiellement aux rumeurs qui peuvent déstabiliser les troupes, le moral des troupes. Voilà, donc peut-être qu'il faut essayer de creuser avec les dispositions qui existent déjà dans notre droit actuel. Voilà, encore une fois... On pourra s'exprimer quand on aura un peu les tenants et aboutissants de ce projet de loi, je crois.
Gérald Bonnery, il nous reste à peine une minute. On a beaucoup parlé des sites, éventuellement sites complotistes, d'informations détournées. Est-ce que les réseaux sociaux ont accentué, j'imagine que les réseaux sociaux évidemment ont accentué ça très largement. Est-ce qu'il y a moyen, est-ce qu'on sait aujourd'hui s'il peut y avoir moyen de freiner cela? Une fois qu'une théorie du complot est tweetée et puis retweetée, comment ça s'arrête?
Enfin, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les grands réseaux sociaux, que ce soit d'ailleurs même les moteurs de recherche comme Google ou Facebook, sont très conscients de ce problème. Je sais qu'ils réfléchissent à cette question, qu'ils essayent d'agir.
Facebook a supprimé 30 000 comptes. Hein.
Par exemple. Alors là, c'est vraiment pour le coup le bâton. Hein. Mais il peut y avoir d'autres types d'éléments comme des incitations. Par exemple, si on parle de marché de l'information, ben, on peut peut-être s'interroger sur le fait que certaines propositions intellectuelles, elles apparaissent en premier dans l'achalandage du rayonnage. Peut-être qu'on peut changer l'ordinalité sans faire disparaître, parce que c'est vrai qu'il y a une charge liberticide potentielle dans la volonté d'interdire un certain nombre de contenus. Mais on peut peut-être réfléchir politiquement à l'agencement de ces contenus pour peut-être trouver des choses plus favorables à l'orthodoxie de la science que des campagnes, je sais pas, anti-vaccins ou ce genre de choses, par exemple.
30 000 comptes, une dernière chose, Rudi Reichstadt, moi je me rends pas compte, c'est beaucoup 30 000 comptes ou est-ce que c'est une goutte d'eau totale en fait?
C'est déjà ça, c'est compliqué à dire, mais c'est pas énorme, les utilisateurs se comptent en centaines de millions sur Facebook.
Allez, merci à tous d'avoir participé à cette émission. Merci à tous ceux qui ont posé 1000 questions. Et je vous le dis comme ça, Elvis vient d'appeler, il dit qu'il est berger en province.